Le jour des rameaux, donc, Jésus entre dans Jérusalem pour être célébré comme roi par ses fidèles. Et il entre dans Jérusalem assis sur un âne. Ça peut sembler curieux parce que, je dirais, si on entre pour se faire célébrer comme roi, on aurait pu choisir une monture plus noble, plus digne, plus grandiose. Enfin, un âne, c'est quand même pas très royal, apparemment. Et donc, pourquoi Jésus entre-t-il dans Jérusalem au rameau sur un âne ? La plupart des commentateurs nous disent que c'est par une sorte d'humilité. C'est-à-dire que Jésus, il est très humble, très modeste, et qu'il fait les choses très doucement, comme pour ne pas trop se faire voir. Je ne crois pas que ce soit vrai. Parce que l'âne, dans l'Antiquité, pouvait être une monture royale. D'abord, les ânes pouvaient être grands à ce moment-là, et puis surtout, les rois montaient sur un âne pour toutes leurs activités pacifiques, et ne montaient à cheval que pour faire la guerre. Un cheval de bataille, comme on disait encore. Et donc, le cheval, c'était la monture guerrière, et pour toutes les activités non guerrières, le roi était monté sur un âne. Autrement dit, l'âne pouvait tout à fait être une monture royale. Mais ce qu'elle a de remarquable, c'est que l'âne, c'est la monture pacifique. Et donc, premier message. Certes, au rameau, on reconnaît Jésus comme roi, mais le premier message, c'est le suivant, c'est que Jésus, s'il est un roi de paix. Et que Dieu, s'il gouverne le monde, ne gouverne pas avec violence, il ne gouverne pas avec brutalité, mais Dieu, et à sa suite Jésus-Christ donc, est dans le monde plein de douceur, plein de tendresse, et il vient simplement en paix pour nous et avec nous. Alors ça, c'est le message qu'on enseigne aux enfants de l'école biblique l'après-midi, et donc vous voyez, ça va assez vite, mais pour vous, qui êtes plus grands, on peut essayer d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, on peut dire la chose suivante, c'est que, certes, Jésus chemine avec un âne, et c'est son choix, c'est très bien, pourquoi pas, ça a du sens, je vous l'ai dit, mais ce n'est pas que cela, parce qu'en fait, Jésus est lui-même le chemin. Il l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et Jésus a dit aussi que celui qui m'aime, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc en fait, le chemin de Jésus doit aussi être le nôtre. Et autrement dit, si Jésus entre dans Jérusalem assis sur un âne, ça veut dire que nous aussi, nous sommes appelés à entrer dans Jérusalem assis sur un âne. Bon, alors comment vous allez vous y prendre? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer. Pour ça, il faut d'abord savoir que Jérusalem, ça représente dans la Bible le lieu de la présence de Dieu. Jérusalem, c'est la ville sainte, si vous voulez. Et dans Jérusalem, il y avait le temple des Juifs qui était le lieu même de la présence réelle de Dieu. Et donc Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Et cheminer vers Jérusalem, c'est aller vers Dieu, aller à la recherche de Dieu, aller à la quête de Dieu. Donc nous sommes invités et à cheminer vers Dieu, à faire un chemin de conversion vers le temple et à le faire sur un âne. Alors que nous soyons invités à faire un chemin, déjà c'est intéressant. Parce que ça présente la foi, justement, vous voyez, non pas comme une sorte de chose immobile, comme un trésor de certitude auquel il faudrait s'accrocher. Mais la foi, c'est un chemin. Et nous sommes invités sans arrêt à être en route, en chemin. J'allais dire en marche si ce n'était pas un jour d'élection, mais vous risqueriez de mal le prendre. Mais nous sommes invités à être en chemin vers Dieu, vers la foi, et notre foi est un chemin. Tout dans la Bible, d'ailleurs, présente notre foi comme un chemin. Entre le pèlerinage, je dirais, du peuple qui sort d'Égypte et qui marche dans le désert pendant 40 jours pour entrer dans la terre promise, et les différents envois en mission du Christ, et là, Jésus qui donc est roi, mais c'est un roi en chemin et qui marche vers Jérusalem. Et ensuite, le texte nous dit, donc c'est certes, nous devons cheminer, mais nous devons cheminer au pas d'un âne. Et là aussi, ça m'intéresse parce qu'un âne, a priori, ça ne va pas très vite, si vous voulez. Un âne, ce n'est pas un cheval de course. Je vous ai dit, l'âne est une monture pacifique. Un âne, ça va lentement, ça va tranquillement. Et peut-être que notre chemin de foi doit être comme ça. Nous devons cheminer vers Dieu tranquillement, doucement, avec constance, avec patience, avec persévérance. Et en même temps, le cheval, je vous l'ai dit, est un animal de guerre et de bataille. L'âne est un animal pacifique. Donc le message, on le continue, puisqu'on est invité à cheminer vers Jérusalem. Et dans notre vie, nous cheminons vers Dieu, mais sur un âne. C'est-à-dire que la foi n'est pas non plus une bataille à gagner. Ça a été trop souvent présenté comme ça. Comme si la foi était un combat qu'il fallait mener, qu'il fallait gagner contre la tentation, contre les puissances du mal, contre l'incroyance, contre les faiblesses, contre tout cela. Eh bien non. La foi, il peut y avoir des batailles dans la foi, mais en tout cas, ce jour-là, dans le récit des rameaux, il n'y a pas de bataille. La foi doit être un chemin pacifique, un chemin tranquille. On avance lentement, sans précipitation, sans bouleversement, mais on avance au pas d'un âne, tranquillement, pacifiquement, parce que la foi n'est pas une bataille à gagner, mais c'est un chemin de paix pour aller rencontrer Dieu lui-même. Mais là encore, bon, j'espérais aller dans des hauteurs importantes, et en fait je reste quand même dans une petite leçon un peu pratique, une petite morale sur ce qu'est la foi. Je crois qu'on peut aller encore plus loin si on veut bien suivre cet âne. Parce que j'ai été étonné en travaillant ce texte et en travaillant cette histoire d'âne, j'ai été étonné de découvrir l'importance absolument incroyable qu'avait l'âne dans la tradition chrétienne. Et l'âne, on le trouve partout. Et donc cet âne n'est pas juste une question de paix et de lenteur. L'âne doit avoir quelque chose de plus pour qu'on le trouve d'un point de vue universel dans toute l'histoire de la Bible et ensuite du christianisme. Déjà, bon, il y a de nombreuses références à l'âne dans l'Ancien Testament, entre l'ânesse de Balaam, vous savez, qui est infiniment plus intelligente que lui et qui le sauve d'un ange exterminateur qui veut le tuer. C'est l'objet d'une autre prédication. Et dans la vie de Jésus, eh bien l'âne, on le trouve au moment de sa naissance. On raconte qu'il soufflait sur le petit Jésus pour le réchauffer. On le trouve dans la fuite en Égypte. Et puis on le retrouve à la fin de sa vie dans l'entrée à Jérusalem. Ce qui fait que l'âne a été considéré comme, dans la tradition chrétienne, comme le Christophoros, le porteur du Christ. Et d'ailleurs, beaucoup d'ânes ont une croix sur le dos. C'est vrai, vous pourrez observer, et on a dit, voilà, c'est l'animal qui porte le Christ. Et puis, si on va dans le début du christianisme, on a des choses très étonnantes. Il y a même des moments où Jésus lui-même est assimilé à un âne. Et ça, on le trouve sur une terre cuite de Syrie, qui est tout à fait antique, qui représente Jésus avec des oreilles d'âne, portant des évangiles sous le bras. Quand même assez curieux. Et puis on a un graffiti du 3e siècle qu'on a retrouvé à Rome il y a une centaine d'années, 150 ans, un graffiti très étonnant qui représente Jésus en croix, enfin on voit plutôt un personnage en croix qui est un âne en fait, un âne crucifié, et puis on voit un petit personnage en bas avec une notice qui dit « Alexamène adore son Dieu ». C'est étonnant ça, non? Et ça, c'est un des premiers graffitis chrétiens, une première représentation de la croix chez les chrétiens. C'est un âne crucifié avec un disciple qui adore son Dieu sur la croix sous forme d'âne. Et ça devait être assez courant puisque dans les textes anciens, on découvre que les chrétiens à Rome étaient appelés les asinarii, c'est-à-dire les adorateurs de l'âne. Ça commence à devenir curieux. Et puis, dans la tradition médiévale, l'âne est présent un peu partout. Ainsi, on trouve des ânes musiciens représentés dans un nombre incroyable d'églises romanes, à Brioude, à Saint-Benoît-sur-Loire, dans les cathédrales gothiques aussi. on trouve des ânes un peu partout, à Nantes, à Bourges, à Chartres. Il y avait même un âne représenté en forme de prêtre à la cathédrale de Strasbourg, qui avait été, d'ailleurs, je glisse une petite notice, cathédrale de Strasbourg, dont le maître d'œuvre Nicolas Amérère était un de mes ancêtres, donc j'en suis responsable indirectement. Et donc, il y avait à la cathédrale de Strasbourg une statue représentant un âne en forme de prêtre tenant un évangéliaire à la main. Et cette statue a été jugée tellement scandaleuse quelques siècles plus tard qu'elle a été retirée. Mais on en trouve encore, dans une petite église romane que j'ai vue il y a pas très longtemps, à Aulnay de Saint-Onge, dans le Saint-Onge, dans cette magnifique petite église romane, on voit un âne avec un bréviaire à la main qui dit la messe. Étrange. Alors, c'est assez étonnant, mais en fait, je l'assume. Et je pense que ce n'est pas une dérision, comme on a dit parfois, ou comme l'ont pensé les gens qui ont retiré cette statue de la cathédrale de Strasbourg. Ils se sont dit c'est des gens mal intentionnés qui ont fait ça pour se moquer des chrétiens. Je ne crois pas. Je pense que que l'âne est véritablement une image du Christ ou du chrétien, et qu'il y a quelque chose dans l'âne qui est un enseignement beaucoup plus fort qu'on imagine. Et d'ailleurs, tenez, il y avait, ça c'est étonnant aussi, il y avait au Moyen-Âge une fête de l'âne qui avait lieu une fois tous les ans. Dans toutes les grandes cathédrales, il y avait une fois par an une fête de l'âne, et on en a le récit fait par Pierre de Corbeil, qui était archevêque de Sens entre 1194 et 1212, qui raconte ces fêtes de l'âne qui avaient lieu donc en général lors du solstice d'hiver. Et à ce moment-là, une fois par an, donc, on prenait un âne qu'on faisait entrer solennellement dans la cathédrale, revêtu comme un évêque, c'est-à-dire avec un manteau d'or, et avec une grande traîne qui était portée par les quatre membres les plus éminents du chapitre. Et on faisait entrer l'âne qui se tenait dans le chœur, juste à côté de l'évangile, et là, on célébrait une grande messe à son honneur. C'est assez étonnant, on n'oserait plus faire ça aujourd'hui. Et même dans un temple, ce serait gênant. Et lors de cette messe extraordinaire, vous savez, dans la messe, il y avait des répons, il y a encore des répons après l'introït, le kyrie, le credo, et à chaque fois, on remplaçait tous les amen de la messe par ian. Voilà. Et donc, et le curé terminait la messe en disant Deo gratias ite missa est ian. Et toute la foule disait trois fois « Ian, Ian, Ian », la fête de l'âne. Alors, je vais vous dire, l'Église est très gênée en parlant de ça. Ils se disent « Oui, bon, ça devait être des dérives moyenâgeuses, on ne comprend pas trop pourquoi. » Et en fait, beaucoup de gens aujourd'hui disent que ces fêtes de l'âne devaient être des sortes de façons un petit peu humoristiques, à un moment donné, de renverser l'ordre social pour défouler le peuple. Vous savez, dans certaines colonies de vacances, où parfois ils font des journées inversées, où c'est le plus jeune qui devient le chef et le chef qui devient le petit dernier, enfin, des sortes d'inversions un petit peu révolutionnaires pour défouler le peuple et pour se moquer de l'ordre social. Mais je ne crois pas. Vraiment, très honnêtement, je ne pense pas. Pour moi, ça fait trop d'éléments. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la valeur de ce que faisaient les gens du Moyen-Âge, qui avaient un sens très aigu et très précis de la mystique, et ils avaient un sens de la symbolique tout à fait abouti, et ne faisaient pas les choses par dérision pure. Et donc je pense qu'effectivement, l'âne est une image du Christ et du bon chrétien, et ça pour pas mal de raisons. Alors, les raisons, on pourrait en trouver des tas, je ne vais pas vous faire un catalogue, je vais juste vous en dire quelques-unes. D'abord, il a de grandes oreilles. Et ça, c'est très important d'écouter. Peut-être que, certes, nous sommes invités à être en chemin tranquillement, mais que la première qualité essentielle pour cheminer dans sa foi, c'est d'être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est être à l'écoute de Dieu et être à l'écoute des autres. Être à l'écoute de Dieu, c'est justement ne pas être intégriste, c'est-à-dire ne pas prétendre tout savoir. L'intégriste, il n'écoute rien ni personne, il sait déjà tout. Si vous voulez, il y a une sorte de certitude, qui est une sorte de forteresse à partir de laquelle il va embêter tout le monde. La foi, ce n'est pas d'être sûr de tout, c'est d'écouter, c'est-à-dire de savoir qu'on a besoin d'apprendre, de rechercher, d'être en quête, et d'être justement celui qui a besoin d'entendre quelque chose qu'il n'a jamais entendu. Et écouter, c'est aussi écouter les autres, c'est-à-dire être dans une dimension de disponibilité par rapport aux autres. Là encore, le sectaire ou les témoins de Jéhovah, quand ils viennent frapper à la porte, vous demandent absolument pas quoi que ce soit sur vous. Ils vous balancent des vérités, des versets, des machins, etc. Enfin, le sectaire vous balance des vérités, il cherche pas à vous écouter. Et là, eh bien, la première qualité, c'est d'écouter. Et nous sommes invités à écouter Dieu, à écouter l'autre. Et je crois aussi que notre Dieu n'est pas un Dieu sourd, mais c'est un Dieu qui nous entend et qui nous écoute et qui entre en relation avec nous. Bon, jusque-là, tout va bien. C'est plutôt agréable comme qualité, c'est sympathique. Mais ensuite, certes, l'âne écoute, et c'est très agréable, mais en même temps, quand il parle, c'est pas formidable. C'est-à-dire que le braiement de l'âne est quand même remarquablement disgracieux, désagréable, voire tout à fait pénible. Et donc l'âne a une parole discordante. Et c'est peut-être vrai. Peut-être vrai aussi que le chrétien est parfois comme invité à être comme un âne qui braie. C'est-à-dire à avoir dans ce monde une parole dérangeante dans le monde, une parole discordante, une parole qui n'est pas quelque chose qui se fond dans la masse. Parce que, je dirais, la parole du chrétien n'est pas appelée à être un doux gazouillis, agréable, mais qui ne dérange personne. Ça n'intéresse personne, on n'y prête pas attention et ça ne sert à rien. Et de même, et peut-être de ce côté-là, je braie peut-être parfois trop souvent comme un âne, mais la prédication à l'eau de rose du pasteur qui nous sert dimanche après dimanche de la grâce, de la miséricorde, de l'amour et du pardon, toutes des banalités doucereuses, c'est sympathique, mais à mon avis à peu près inopérant. Et finalement, pas beaucoup de raisons de se déranger pour ça. Mais au contraire, je crois que la parole de l'Évangile, comme la parole du chrétien, est invité à être une parole percutante, une parole forte, une parole qui dépasse au-dessus du reste et qui interpelle. On entend, on se dit oui, là il y a quelque chose qui n'est pas ce que disent tous les autres. Une parole qui certes peut déranger, mais une parole qui se démarque du bruit de fond ambiant, de ce que l'on entend partout, qui se démarque même peut-être, je dirais, de l'intellectuellement correct, du politiquement correct ou autre. Il faut avoir le courage d'une parole qui dérange. Voilà. Et puis, cela dit, il est vrai que l'âne est mal considéré. Oui, l'âne est mal considéré. On dit qu'il est bête, qu'il est exclu. Et d'ailleurs, moi, je ne l'ai jamais subi, mais peut-être que certains d'entre vous en ont des souvenirs, mais autrefois, l'élève qui faisait mal les choses, qui se comportait mal, qui n'était pas comme il faut, on le mettait au coin avec un bonnet d'âne. Voilà. Je ne sais pas qui a connu ça, mais il paraît que ça existait. Et en fait, l'âne, c'est celui qui est rejeté. Et là aussi, dans la pensée médiévale, elle a toujours dit, et comme dit l'Évangile d'ailleurs, en disant « méfiez-vous parce que celui qui peut sembler fou pour les hommes, peut-être que dans le fond, il n'est pas si fou que ça. » Et que être chrétien, c'est prendre aussi le risque d'être différent, de ne pas être comme tout le monde, c'est prendre le risque, oui, de passer pour fou, pour insensé, c'est prendre le risque d'être mis à l'écart, parce que les gens disent, il déraisonne, il nous dérange, il pense pas comme nous, il est pas sage. Et être chrétien, c'est avoir le courage de ne pas être sage, et peut-être même d'être mis avec un bonnet d'âne, et pourquoi pas. Parce que le Christ lui-même, il a tenu une parole forte, et il a dérangé, et il a parlé au-dessus des autres, et on l'a écarté. Et on l'a mis effectivement comme un âne au coin, sur une croix. Alors, je crois que toute parole prophétique, tout comportement prophétique, c'est-à-dire même tout comportement chrétien qui sort non pas d'un mimétisme par rapport au monde, mais d'une conviction personnelle, est bien souvent et peut-être forcément incompris par le monde. Parce que le chrétien, s'il agit par rapport à l'Évangile, n'agit pas par rapport aux règles normales du monde. Les règles normales du monde, c'est son égoïsme, son intérêt, sa réussite, c'est soi-même. Et le chrétien, normalement, s'il suit l'Évangile, justement joue un autre jeu et peut-être aura un comportement, une parole qui n'est pas son intérêt, qui n'est peut-être pas son confort, peut-être pas sa réussite. Et ça, c'est assez dérangeant. Eh bien, tout dans l'histoire de l'Ancien Testament nous montre que les prophètes ont toujours été rejetés, persécutés, incompris. Les seuls qui ont eu du succès auprès des rois dans l'Ancien Testament, c'est les faux prophètes, ceux qui disent ce que tout le monde veut entendre. Alors là, ils ont un grand succès. Mais celui qui dit une parole de vérité, c'est quand même assez compliqué. Et je pense qu'effectivement, il faut, en tant que chrétien, avoir le courage d'une certaine folie. Et que cette folie est de l'ordre de la sagesse de Dieu. C'est ce que dit Paul en 1 Corinthiens au chapitre 1, quand il dit, vous savez, la sagesse de Dieu, elle est folie pour les hommes. Parce qu'effectivement, Paul dit, le monde, il cherche des paroles de sagesse, des paroles mesurées, des conseils moraux raisonnables. Et Paul dit, nous, non, on est venu prêcher la folie de la croix. Donc la sagesse de Dieu est folie pour les hommes, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et le message de l'âne, c'est ça, c'est que en fait, celui qui est peut-être humainement mal considéré, celui qui serait humainement considéré comme fou, comme bête, comme discordant, comme pas intelligent, eh bien en fait, c'est peut-être lui le meilleur. Et donc oui, ayons le courage, peut-être, de savoir avoir le courage de paraître comme des ânes, d'être incompris, d'être un peu fou, d'être discordant, sinon on n'est rien dans le rien. Alors bon, cela dit, je ne dis pas qu'il suffit d'être rejeté ou fou pour être sage, hein. Le fait d'être critiqué n'est pas une preuve que l'on a raison, et le fait d'avoir une parole discordante par rapport au monde ne veut pas dire que notre parole est juste, et le fait de ne pas être aligné dans le politiquement correct ne dit pas que nous avons raison, je dis absolument pas ça, mais que de toute façon, celui qui dit vrai, forcément c'est compliqué, voilà. Et puis ensuite, j'avoue que l'âne est peut-être pas si fou que ça. Parce qu'en effet, l'âne est... D'abord, je crois que l'âne est pas si bête. Il est même beaucoup plus intelligent qu'un cheval, dit-on. Pour ça que je préfère monter sur un cheval que sur un âne, d'ailleurs, parce que c'est plus facile, comme il est moins malin. Et donc, l'âne est en fait extrêmement intelligent. Et peut-être même que cet âne, les gens ne voient pas l'intelligence qu'il y a, mais il est une forme d'antidote contre la folie du monde. Parce que là, on parle de la sagesse du monde, mais en fait, mes amis, non, le monde est fou, le monde est complètement fou. Et donc, tous ceux qui croient dans la sagesse du monde, eh bien, ils sont des fous qui suivent des fous. Je dirais, le monde qui va à sa perte, le monde qui se bat, le monde qui tue des enfants, le monde, c'est de la folie complète. Et à un moment donné, il est bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne braire, peut-être plus intelligent que tous ces gens-là, pour dire la fraternité, la responsabilité, l'amour, le don de soi, et même peut-être le sacrifice de soi. Et donc l'âne, finalement non, il n'est pas fou du tout, c'est même l'antidote à la folie. Étonné, j'ai même une preuve, non, mais un élément qui va dans ce sens. L'âne, il est appelé Aliboron, alors je ne sais plus où, j'ai de ça dans la tête, je crois que c'est l'âne, le nom de l'âne dans les fables de La Fontaine. Aliboron, c'était le nom d'un philosophe iranien, ça je sais, Al-Biruni, qui était réputé pour être un expert en toutes choses et pour être quelqu'un remarquablement sage. Donc voilà un âne qui porte le nom d'un sage iranien. Et d'autre part, Aliboron, c'est la même étymologie que l'élébore, Et l'élébore, vous le savez aussi grâce à La Fontaine ou à Molière, l'élébore, c'était ce que l'on donnait pour soigner la folie. N'y a-t-il pas quelques graines d'élébore pour vous soigner, dit la littérature. Et donc cet âne aliboron, qui est l'élébore, est celui qui nous guérit de la folie. Cet âne de l'Évangile qui peut nous guérir de la folie du monde, de la violence, de l'égoïsme, de la brutalité, du pouvoir effréné et d'autres choses. Et pour ça, eh bien, nous devons cheminer comme des ânes, et encore, dernière petite qualité, nous devons être comme lui, déterminés, têtus comme un âne. Oui, c'est vrai. Un âne, il va où il veut aller. On ne peut pas le forcer. On peut lui taper dessus, s'il n'a pas envie d'avancer, il n'avancera pas. Ça, c'est formidable, ça. À la fois, être capable d'avancer, mais d'avancer imperturbablement, peut-être pas très vite, d'accord, mais avec une fermeté de bulldozer. C'est ça, le chrétien. Il avance et on ne peut pas le faire détourner de son chemin. Et quoi que disent les autres, quoi que pensent les autres, quelle que soit l'image qu'il a, il y croit et il y va, et il avance. Et vous disais-je, l'âne ainsi peut avancer de cette façon-là, sans tenir compte du jugement des hommes, sans tenir compte du jugement de ceux qui ont peut-être plus de succès, plus d'honneur qu'eux, mais il avance. Et ainsi nous sommes invités à avancer avec courage, avec résolution, d'une manière opiniâtre, avec patience, à petits pas peut-être, à petits pas, mais dans la bonne direction, et sans se préoccuper le moins du monde, de paraître fou pour le monde des hommes, sans avoir peur d'émettre un son discordant au milieu des autres, un hiant même qui pourrait choquer les oreilles. Oui, nous sommes invités à être des ânes pour labourer les vignes du Seigneur. Et ainsi, nous pouvons avancer vers Dieu avec douceur, avec constance, dans la paix, invités à avancer tout en continuant à savoir toujours écouter avec nos grandes oreilles, avancer en sachant que ce qui est méprisé par les hommes peut être parfois premier pour Dieu, comme l'a été le Christ, avec le courage d'être différent, le courage de donner de la discordance dans le monde, le courage de témoigner, le courage de faire entendre sa voix, le courage peut-être parfois d'être fou parmi ceux qui se croient sages. Ion.